Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. 750 000 manifestants hier dans les rues de France contre 1,2 million la semaine dernière. Prochain rendez-vous samedi. Question maintenant, à l'Assemblée, la réforme va-t-elle passer grâce à l'appui des députés Les Républicains? L'Info C'est Clair est intitulé « Retraite, la droite à la rescousse ». Nos invités, Alexandra Schwarzbrod, vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération qui titre ce matin « 2 ans de plus, ça use, ça use ». Votre éditorial est intitulé « Unité ». Et Gilles Bornstein, vous êtes éditorialiste politique à France Info. Merci de participer à cette émission en direct. Donc troisième mobilisation contre la journée, contre la réforme des retraites hier en net-repli. Hein. 757 000 personnes ont défilé selon la police, contre 1,2 million la semaine dernière. Une quatrième journée est prévue samedi prochain. Alors, beaucoup pourront alors y participer sans se priver de salaire. Sujet de Maëva Damois et Stéphane Pichavant.
La pression de la rue continue, du vieux port de Marseille bondé, aux rues pavées de Rennes ou encore à Toulouse. 757 000 manifestants dans toute la France selon les autorités, près de 2 millions selon les syndicats. À Paris, la place de l'Opéra, point de départ du cortège, s'est remplie. Troisième mobilisation, moins suivie, c'est ce que constate cette travailleuse sociale de 24 ans.
C'est plus facile de circuler alors que la semaine dernière, il y avait énormément de monde. On le voyait, on le sentait, la foule. Je pense effectivement que ça peut s'essouffler un petit peu, notamment dû à l'argument financier.
Comme sa collègue, elle touche 1700 euros net par mois. Chaque manifestation pèse sur leur budget.
On est un petit peu obligé de magouiller entre les RTT, le droit de grève pour essayer d'être quand même payé sur la demi-journée.
Pour rester gréviste sur la durée, cette fonctionnaire de 50 ans, mère de 2 enfants, s'organise en famille.
On est un couple et on fait grève une fois sur deux, chacun son tour, pour pas perdre 2 journées en même temps.
À Nice, pour défiler, ses infirmiers libéraux aménagent leur planning.
Et on est beaucoup à avoir commencé plus tôt ce matin. On a pris des remplaçants, on terminera beaucoup plus tard. Et on vient manifester.
Organisation facilitée à Guéret par les vacances scolaires. 3000 manifestants dans les rues, soit 1 habitant sur 4. C'est légèrement moins que la semaine dernière. Mais pour les syndicats, pas d'essoufflement du mouvement qui s'inscrit dans la durée.
Parfois, certains s'excusent de ne pas pouvoir venir aujourd'hui, mais ils nous disent on sera là samedi. Eh ben, faudra additionner ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui sont là samedi. Vous verrez, ça fait beaucoup de monde.
L'examen du projet de loi, il est prévu jusqu'à la deuxième quinzaine de mars. Parce qu'il n'y a pas que l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Et donc, on continuera d'exprimer.
Alors, avant de revenir sur la suite du mouvement, d'abord, Alexandra Schwarzbrod, comment interpréter ce recul hier? Assez sensible quand même. Hein. On est passé d'un million deux à 750 000.
Oui, mais il était totalement prévisible. Même Philippe Martinez, avec qui je discutais en fin de semaine dernière, pressentait déjà que ça allait baisser pour les raisons qui ont été évoquées dans votre reportage, c'est-à-dire que il y a des gens qui peuvent pas se permettre de poser un troisième jour de grève dans leur entreprise et donc. Qui, en plus, sachant qu'il y a une grosse manif samedi, se disent « bon, bah, c'est pas grave, si je vais pas manifester aujourd'hui, j'irai samedi, parce que là, c'est plus facile, c'est moins douloureux pour la fiche de paye ». Donc, je pense que c'est pas vraiment significatif. Je pense que ce qui va être le vrai test, ça va être samedi. Si samedi, ça continue à baisser, là, on pourra dire que le mouvement s'essouffle. Aujourd'hui, je pense que, compte tenu justement des mouvements de grève précédents, il y a quand même eu du monde hier. Enfin, franchement, il y a eu quand même, quand on voit dans les 1 habitant sur 4 à Guéret, enfin, c'est quand même énorme. C'est énorme quand on y pense.
Et votre pressentiment pour samedi?
Je pense qu'il y aura du monde. Je pense qu'il y aura du monde parce que beaucoup...
La colère ne s'apaise pas?
Non.
La détermination?
Je pense que la colère ne s'apaise pas et même elle grossit, je pense, cette colère, parce que la communication du gouvernement est désastreuse, parce que il y a Olivier Dussopt, parce que alors voilà ce dont vous parliez dans l'émission précédente, les bénéfices records de Total. tout ça accumulé, même si tout cela n'a rien à voir, mais ça crée dans la psyché générale un sentiment de voilà, c'est toujours les plus précaires, les plus pauvres qui trinquent, et pendant ce temps, des entreprises font des bénéfices records et on leur demande rien. C'est à nous qu'on demande toujours l'essentiel de l'effort. C'est ça ce qui monte dans la population.
On va en parler parce que dans le même temps, en plus, les raffineries de Total sont maintenant, toutes les raffineries sont en grève, ce qui pourrait annoncer un durcissement du mouvement. Par rapport à samedi prochain, Gilles Bornstein, on a l'impression que ce qui fait la force de ce mouvement, c'est qu'il est un petit peu apolitique parce qu'il est tenu par les syndicats et notamment par la CFDT qui dit attention, on représente les travailleurs, on ne veut pas se faire récupérer. Est-ce que samedi, il n'y a pas un risque de politisation de cette manifestation, ce qui pourrait en faire perdre une partie du charme ?
Je dirais pas encore samedi. Je pense que le risque existe, mais c'est pour plus tard. Je dirais pas que l'atout du mouvement, c'est qu'il est apolitique, c'est que pour l'instant, il est unitaire. Et c'est vrai que pour l'instant, et on l'a dit et répété, c'est la première fois depuis 12 ans, la CFDT et la CGT disent la même chose. En tout cas, sur les objectifs, ils sont exactement d'accord. Ils veulent le retrait de la mesure d'âge. Philippe Martinez et Laurent Berger sont exactement sur la même longueur d'onde. On voit pointer déjà ça et là des querelles, enfin des différences, et c'est normal, ce sont deux syndicats différents. Sinon, il y aurait une unité syndicale comme dans les autres pays d'Europe. Là, ils sont d'accord sur les objectifs, ils ne sont pas forcément d'accord sur les moyens. Jusqu'à présent, chacun a mis de l'eau dans son vin. Chacun a eu à cœur de faire le geste nécessaire pour garder l'unité. On sait que cette journée de samedi, eh bien, la CFDT la voulait justement pour que, comme le disait Alexandra, les gens puissent aller travailler sans perdre une journée de grève. On voit déjà poindre que Philippe Martinez, hier, il a déjà parlé de grève reconductible, de grève dure, ce que ne dit pas Laurent Berger. Hier, j'ai reçu Fabien Villedieu, vous savez, le charismatique leader de Sud Rail de la gare de Lyon. Alors lui, il dit carrément qu'il veut bloquer le pays. Ça y est, il le dit. Alma Dufour, depuis l'Assemblée nationale, députée LFI, disait aussi maintenant qu'il faut bloquer le pays. Alors, pour l'instant, je trouve que tout cela est préservé. Je suis d'accord avec Alexandra. Il y a une querelle. Est-ce que c'était un faux plat hier? Est-ce que les gens se réservaient pour samedi ou est-ce que c'est un vrai faiblissement? Je suis plutôt d'accord avec Alexandra. À mon avis, les gens se réservaient et il y aura une grosse journée samedi. Mais enfin, on verra. Après tout, la météo sociale, c'est toujours très compliqué. On verra samedi soir. C'est à partir de samedi soir et peut-être après le retour des vacances. J'ai le sentiment que les durs ont cédé à la CFDT qu'il ne fallait pas, selon l'expression désormais consacrée, qu'il ne fallait pas emmerder les Français pendant les vacances. J'ai le sentiment, hein, je peux me tromper, qu'ils ont cédé ça à Laurent Berger. Après le retour des vacances, ça sera concomitant à vraiment l'examen de la partie dure du texte.
D'accord.
Après le retour des vacances, on verra si cette unité tient et si ceux qui veulent bloquer, qui s'expriment déjà, l'emportent sur ceux qui veulent rester plus soft.
Sauf que les vacances, elles vont durer longtemps. Hein, oui. Il y a les trois zones.
Il y a les trois zones, c'est jusqu'au 5 mars.
Voilà.
À quel moment le gouvernement va entendre cet appel du monde du travail disant cette réforme, on n'en veut pas? C'est Laurent Berger qui dit on est nombreux dans la rue, mais le gouvernement, il ne veut rien entendre. Donc est-ce qu'à un moment, les durs ne vont pas s'émanciper de ce type de manifestation pacifique? Ce matin, on voit que toutes les raffineries Total sont en grève. Ça, typiquement, c'est du genre à créer le blocage dans le pays. Parce que là, immédiatement, le message est passé. Ouais. Ce matin, on va tous aller dans les stations faire le plein.
Pour faire le plein.
Et donc, c'est autoréalisateur, ça, hein, la pénurie d'essence. Hein.
Oui, oui. Non, mais c'est l'énorme risque. C'est l'énorme risque.
Pour vous, c'est un risque ou c'est un...
Non, c'est l'énorme risque de... Moi, ce qui me fait peur, c'est que ça se radicalise, surtout. C'est-à-dire le durcissement du conflit, le blocage du pays. En effet, c'est peut-être vers ça qu'il faut aller pour faire plier le gouvernement. Mais en revanche, moi, ce qui me fait peur, c'est la radicalisation. C'est-à-dire que le durcissement du conflit, entre durcissement du conflit et radicalisation, on voit bien que ça se durcit partout, dans l'hémicycle, les invectives, les menaces. Et dans la rue, on voit qu'il y a la tentation...
Alors, pour aller dans votre sens, ce matin, Total vient d'annoncer des bénéfices records de plus de 20 milliards de dollars, hein, des bénéfices, voilà. Et en ce moment même, pendant que nous parlons, le siège de Total à la Défense est l'objet de vandalisme.
Voilà.
Des manifestants ont balancé de la peinture sur le siège de Total.
Voilà, et moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que, justement, ce qui faisait la force, enfin, ce qui fait toujours la force de ce mouvement, c'est... L'unité syndicale, le côté calme, pacifique, déterminé pacifique mais déterminé. L'un ne va pas sans l'autre. L'un peut aller avec l'autre. Là, j'ai très peur que des deux côtés, c'est-à-dire côté politique, puisqu'on voit bien que dans l'hémicycle, c'est un boxon pas possible, et dans la rue, ça parte en sucette, que les leaders syndicaux n'arrivent plus à maîtriser la base, et que là on entre dans une autre histoire qui peut mal tourner.
Alors pour l'instant sur le fond. Pourquoi est-ce que les Français sont si opposés à cette réforme des retraites? Et plus on l'explique, on a l'impression, plus l'opposition monte. Je vous propose de regarder ce reportage hier à Lyon et à Poitiers de Olivier Martin et de Jean-Pierre Rivalin avec nos bureaux en région dans ce qu'on appelle les villes moyennes. Dans les villes moyennes où les ouvriers, mais pas que, les cadres, les artisans sont aussi tous en pointe contre cette réforme des retraites. Reportage.
Depuis le début du mouvement, ils se retrouvent toujours devant l'entreprise avant de partir manifester. Tous sont employés chez Renault Trucks, l'un des plus gros employeurs de la région. Des salariés du privé, habituellement moins enclins à manifester, mais qui ont choisi de faire grève pour protester contre la réforme des retraites.
Privé, public, ça fait des retards pour tout le monde, les retraites, ça parle à tout le monde aujourd'hui.
Travailler sur les chaînes de montage ici en 2-8, c'est pas considéré comme pénible. Je ne sais pas ce qui est considéré comme pénible.
Ils sont une cinquantaine ce jour-là. Ouvriers sur des lignes de production, mais aussi cadres de la société, avec plus ou moins d'ancienneté. Certains manifestent pour la première fois, comme Frédéric Chollet, 54 ans, agent de maintenance depuis 23 ans dans l'entreprise.
Je ne suis pas un adepte de la manif, mais voilà, on sent que là, c'est quand même le moment de bouger. Faire 2 ans de plus, non, pas du tout, surtout quand on a commencé jeune.
D'autres, comme cet ingénieur, également représentant syndical, redoutent de travailler au-delà de 64 ans.
Moi, je suis cadre dans l'entreprise, ce qui explique que j'ai fait de longues études et que du coup, je me retrouve à terminer à 67 ans. Est-ce qu'à 67 ans, même dans un travail de bureau, je suis informaticien, est-ce que mon travail de bureau, je vais encore pouvoir le faire?
D'autres rassemblements, comme ici à Poitiers, et dans le cortège, là encore, des employés du privé, parmi lesquels ceux de l'entreprise Sorégie, un fournisseur d'énergie. La plupart évoquent la pénibilité du travail et insistent sur la question des salaires.
J'ai 52 ans, ça fait 20 ans que je travaille, je touche 1800 euros, puis je ne me sens pas capable de travailler sur un milieu technique jusqu'à l'âge de 64 ans.
On ne peut plus travailler sur les salaires qu'on a avec une inflation à plus de 7%, ce n'est pas possible.
Les salariés rencontrés se disent déterminés et la plupart iront de nouveau manifester samedi lors de la prochaine journée d'action.
Alors, Gilles Bernstein, on a entendu un cadre qui disait « Moi, je vais travailler jusqu'à 67 ans ». Donc typiquement, c'était un homme, le genre de personne dont on disait qu'il n'était pas trop touché par cette réforme des retraites. Même lui, il est contre. Comment expliquer c'est le fait que, comme on le dit, 93% des actifs, pour eux, ça leur semble insupportable, cette idée qu'on passe de 62 à 64.
Je pense que c'est ce qu'on a vu poindre depuis quelques semaines dans le conflit, c'est ce rapport au travail qu'on n'avait pas vu venir, une pénibilité qu'on n'avait pas vu venir. On pensait, enfin moi je pensais qu'il y avait le travail pénible quand on était équarisseur dans un abattoir, quand on poussait des wagonnets au fond d'une mine, c'était pénible et ça tout le monde comprenait qu'on ne pouvait pas travailler. Et que le reste du travail émancipait. Ben non, c'est pas vrai. En fait, il y a 3 catégories, il y en a plus, mais il y a les travaux excessivement pénibles, il y a les travaux émancipateurs comme les nôtres, c'est sûr que nous, on fait des travaux qui nous émancipent, qui nous font plaisir. On est content de travailler. Et puis, il y a toute une frange du travail qui n'est pas particulièrement pénible, mais c'est pas marrant. Franchement, les gens, ça les amuse pas d'aller bosser, d'autant qu'on sait que les salaires sont assez faibles et les gens ont l'impression de faire quelque chose qui les intéresse pas tellement pour un salaire qui finalement ne leur permet pas de vivre tout à fait correctement. Et voilà, c'est toute une frange de la population qui se dit, en fait, je vais être trivial à nouveau. Le travail, ça m'emmerde et j'ai pas envie de le prolonger.
Alors, Alexandra Schwarzbrod, on parlait des salaires. On l'a entendu dans les témoignages, hein, pour ce que je gagne en plus.
1800 euros.
Voilà. Et quand on entend les 20 milliards et demi de profits de dollars de Total, c'est de nature à ajouter du ressentiment. Et ça veut dire que toutes les colères s'agrègent. Il n'y a pas que la question des retraites
qui peut sortir dans la rue. Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, depuis le début, je pense que la réforme des retraites, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si vous voulez. Je pense que depuis le début, on sent, depuis un moment, on sent cette espèce de sentiment d'injustice entre les grandes entreprises qui dégagent de gros profits, notamment à la faveur de la guerre en Ukraine, Et les autres, tous les
pays, 2 euros pour faire le plein d'essence.
Et notamment dans les villes moyennes, les petites villes, les campagnes, les gens qui sont obligés de rouler en voiture et donc de faire le plein, qui se prennent l'inflation et la hausse des carburants de plein fouet, tout en affrontant la dégradation des services publics, en ayant l'impression d'être totalement abandonné de Paris. Et si vous voulez, là, il y a...
Abandonné de Paris. Il y a un côté aussi, les services publics se dégradent, on paye des impôts et on n'en a plus en retour.
Parce mais oui,
on ferme
sûr.
La maternité, on ferme l'école, tout ça.
Mais bien sûr, on ferme l'hôpital est surchargé, les écoles, les profs sont dépassés. Enfin, si vous voulez, c'est tout un contexte qui fait une dégradation générale des services publics, et puis même de ce qui faisait les piliers de la société française. L'éducation nationale, l'hôpital public, le transport ferroviaire, toutes ces petites lignes qui ont été coupées avec des gens qui ne peuvent plus traverser la France d'est en ouest ou d'ouest en est. Si vous voulez, tout ça, ça crée un climat qui fait qu'à un moment, quand on annonce en plus à tout le monde qu'il va falloir travailler 2 ans de plus, alors que les grandes entreprises sont épargnées, alors qu'il n'y a pas de taxes sur les super profits, le couvercle saute et c'est très difficile de le refermer.
Stéphane Zumthek, vous nous avez rejoint, vous êtes directeur opinion politique d'Ipsos.
Bonjour.
Vous nous avez rejoint parce qu'il y a également les agriculteurs qui sont dans la rue, qui manifestent en Paris, qui font que l'accès à France Télévisions est compliqué, c'est dire s'il y a des colères en ce moment qui s'expriment dans la capitale. On parlait du rejet de cette réforme. Est-ce qu'il est toujours aussi fort et quels en sont les ressorts du rejet de l'opinion ?
Il est toujours aussi fort, même il progresse. Ce qui est intéressant, c'est qu'il progresse dans son ampleur. Vous savez, souvent on demande aux gens s'ils sont favorables ou opposés, mais surtout s'ils sont très favorables ou très opposés. Et aujourd'hui, la part des Français, qu'ils soient actifs ou pas, qui rejettent vraiment viscéralement ce projet de réforme, il est très important. Et l'un des éléments qui, à mon avis, vient illustrer l'échec du gouvernement à avoir réussi à avoir essayé de convaincre les Français, c'est que jusqu'à présent, les seniors, les retraités, mais aussi les cadres supérieurs, étaient plutôt favorables, plutôt bienveillants à l'égard de cette réforme. C'était les seuls Français, avec les sympathisants de Renaissance, évidemment, avec les gens qui soutiennent le bloc présidentiel, qui se révélaient plutôt favorables. Aujourd'hui, même les retraités, même le socle électoral du macronisme est beaucoup plus partagé. On le voit bien, c'est 50-50. Et évidemment, c'est une opposition beaucoup plus forte quand on est issu d'un milieu populaire ou quand on est issu des partis de gauche ou de droite plus radicale. Il y a ça, et très clairement, ce que rejettent les Français au-delà de l'âge légal, du report de l'âge légal ou de l'allongement à 43 ans de cotisation, c'est finalement que l'argument démographique et surtout l'argument financier ne fonctionne pas. Et ça, c'est très important.
12 milliards en 2027, ça ne parle pas aux Français.
Ça ne parle pas, et même, j'irais jusqu'à dire que ce n'est pas beaucoup dans l'esprit des Français.
Alors c'est vrai que Total vient d'annoncer 20 milliards de profits.
Bien sûr, mais c'est aussi le résultat de 5 ans, presque 6 ans, de réhabilitation de la dépense publique. On a dépensé beaucoup d'argent pour sortir de la crise des Gilets jaunes.
Et encore 100 milliards en bouclier énergétique.
De bouclier, tout ce qui a été dépensé pour le Covid. Donc quand, 5 ou 6 ans après, vous dites aux Français qu'il y a quelques milliards, 10, 15 milliards de déficit, mais ça ne parle plus. Évidemment, c'est une somme considérable. Ils se disent, mais pourquoi faire cette réforme maintenant ? Non, nous ne sommes pas convaincus qu'on va financièrement dans le mur, que le système est invivable, ce n'est pas vrai. Et de toute façon, ce qu'ils nous redisent, c'est que réformer peut-être, pourquoi pas, mais pas de cette façon, pas de façon aussi brutale, pas de façon aussi punitive, en fait. Et d'où le sentiment d'injustice dont vous parliez tout à l'instant quand je suis arrivé.
Alors Gilles Bornstein, face à ce ressentiment, comment qualifiez-vous la stratégie d'Elisabeth Borne vendredi dernier? Elle disait que cette réforme était, alors non plus juste, hein, ça on a abandonné, elle était indispensable, qu'elle visait l'équilibre et qu'il fallait être attentif à la répartition des efforts. Mais Elisabeth Borne a rajouté, cette réforme, elle se fera, jeudi dernier.
Alors, plusieurs choses sur la façon de vendre la réforme. C'est vrai qu'ils ont d'abord essayé par la justice, alors ça a été un fiasco absolument exceptionnel, et on se rendait compte, plus elle disait que c'était juste, comme les Français ne sont pas complètement crétins et qu'ils ont compris que ça ne demandait des efforts qu'à une catégorie de la population et pas aux autres, ils se rendaient compte que ce n'était pas très juste. Donc plus elle le disait, plus elle s'enfonçait. Ils ont changé de stratégie en essayant de dire qu'elle était nécessaire pour l'équilibre des comptes publics. Mais ça s'est heurté exactement à ce que vient de dire Stéphane. C'est-à-dire, je ne le répète pas, c'est-à-dire que 10 milliards dans un monde du quoi qu'il en coûte, personne ne comprend ce que ça veut dire, d'autant plus, comme vous l'avez dit, quand il y a des bénéfices records, j'ajoute ceux de la BNP, les banques.
10 milliards.
Qui sont censés être en difficulté, 10 milliards d'euros, à qui tout le monde voit que c'est compliqué d'obtenir un prêt de d'obtenir un prêt de 1 000 euros pour acheter, ou de 3 000 euros pour acheter une voiture d'occasion, ben le lendemain, on apprend que la banque qui vous a refusé le prêt fait 10 milliards d'euros. C'est vrai que c'est assez compliqué à comprendre. Donc le gouvernement n'a pas arrêté d'alterner entre deux façons d'expliquer cette réforme. Aucune des deux ne fonctionne. Mais il est confronté à un impératif politique, c'est que Emmanuel Macron ne veut pas reculer, ne reculera pas, on le sait. C'est ses galons de président réformateur qu'il n'a pas tellement obtenu lors du premier quinquennat. Il n'en aura pas de troisième, donc c'est maintenant ou jamais. On sait qu'après, il y a les européennes, il y a les JO, et qu'on sait que les réformes structurelles, c'est au début d'un quinquennat qu'on les fait et pas à la fin. Donc c'est maintenant ou jamais, donc il doit tenir. Et la première ministre est confrontée au fait que le président de la République... Enfin, quand on dépense de l'argent, il faut gagner. On sait que, donc, effectivement, il y a des moyens de rendre la réforme plus douce. Mais si vous donnez des milliards d'un côté, pour que ça rapporte à la fin, il faut en gagner de l'autre. Le gouvernement excluant, par principe, par nature, par idéologie, par tout ce que vous voulez, excluant de faire payer d'une certaine manière les entreprises... Eh ben, c'est un panier percé. C'est-à-dire que si vous accédez...
À force de concession, cette réforme ne va plus rien rapporter.
J'ai lu, là, on avait dit au début, c'était...
Un tiers.
L'objectif du gouvernement, c'est l'équilibre en 2030.
Ouais.
Pour ça, au début, ils comptaient sur 17 milliards d'euros à fort par an d'économie. Ils ont fait quelques concessions, ça ramenait 12 milliards d'euros par an. Qui garantissait, enfin, qui... Ça avait une chance d'amener l'équilibre en 2030. J'ai lu qu'à force de faire des concessions, plus les coûts induits, vous savez, on dit que si on décale l'âge légal, ça fera. Il y a des gens qui ne travailleront pas pour autant, qui seront au chômage ou qui seront en arrêt maladie. Ouais. Tout ça, ça fait des coûts pour les autres branches.
Au lieu que ce soit la retraite qui paye,
L'assurance chômage ou la sécu, ou l'assurance maladie. Tout ça va certainement ramener le gain de la réforme à 5, 6, 7 milliards d'euros par an. Ce qui... par rapport au quoi qu'il en coûte dont parlait Stéphane, est ridicule. Personne ne comprend pourquoi...
Tout ça pour ça, quoi.
Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et Emmanuel Macron risque d'arriver à une réforme où il aura un coût politique énorme, même si elle passe un coût politique énorme, pour un bénéfice financier vraiment très faible, de sorte que ça ne sera pas la DRDDR. Alors, il y aura une autre réforme des retraites.
Ah oui, parce qu'à un moment, l'équilibre, il faudra qu'il se fasse. Bah, Alexandra Schwarzbrod, est-ce que finalement le gouvernement sait qu'il a perdu la bataille de l'opinion? Maintenant, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, l'objectif, c'est de gagner cette bataille de à l'Assemblée et d'avoir une majorité, de ne pas en passer par le 49-3.
Bah oui, sauf que c'est pas gagné non plus à l'Assemblée, hein. Parce que plus il y a du monde dans la rue, plus les gens manifestent leur colère, plus les élus se rendent bien compte que les élus qui sont censés représenter leur...
La peur est en train de changer de camp à vous écouter. Au début, on disait oui, mais elle se fera, et les Français le savent, on a l'impression, on vous entend...
Mais là, je crois que les Français ont pris un peu de confiance en eux, c'est-à-dire qu'ils ont bien vu quand même qu'ils pouvaient peser, puisque le gouvernement a lâché des mini-gestes. Et surtout, on voit bien qu'à l'Assemblée, c'est plus aussi évident que ça ne le paraissait au tout début de ce projet de réforme, où tout le monde se disait ça va passer sans problème. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu ces chiffres qui montraient que même les Français avaient conscience que c'était important de montrer la colère, mais que la loi, le projet risquait de passer. Là, c'est en train de basculer, parce que certains essayent de profiter de la colère pour avancer leur pion. Je pense notamment à Aurélien Pradier au sein de la droite, hein, qui voit bien que c'est peut-être son moment, là, en ce moment, de se faire entendre. Et puis aussi, il y a l'aile gauche de la Macronie qui se dit on ne peut pas laisser passer un projet pareil avec une telle colère dans la rue. Bon, le RN, évidemment, en fait son beurre. Donc
la majorité vacille à l'Assemblée.
À la majorité vacille, et ce n'est plus du tout assuré que ce projet puisse passer les doigts dans le nez. Si
alors justement, pour emporter les votes LR, Elisabeth Borne a fait un geste, elle a accepté d'ouvrir la retraite à 63 ans pour ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, mais apparemment ça ne suffit pas. Sujet de Maëva Damois et Wassili Kamli.
Un geste in extremis pour obtenir les voix des Républicains. C'est ce que propose le gouvernement au premier jour d'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée. Faire bouger le curseur des carrières longues. Âge de départ maximum, c'est la nouveauté, 63 ans pour tous ceux qui auraient commencé à travailler avant 21 ans avec 4 à 5 trimestres validés. C'est le cas de Philippe Lamer, 47 ans, directeur d'hôtel à Paris.
On a combien d'arrivées aujourd'hui ?
Dès l'annonce de la Première ministre, il a fait le point sur sa carrière.
Les premières années professionnelles, c'est des petits jobs d'étudiants dans les années donc 1992. C'était principalement des jobs d'été. Donc bah, avant mes 21 ans, j'ai obtenu 5 trimestres.
La retraite à 63 ans et non 64, il peine à y croire, mais ce serait toujours ça de prix, selon lui.
Un an, c'est bien, parce que 63 ans, t'es encore en forme.
30 000 personnes par an pourraient bénéficier de cet élargissement du dispositif carrière longue. Insuffisant pour les députés LR, eux réclament un seul trimestre validé avant 21 ans pour avoir droit à une retraite anticipée.
Ceux qui voulaient déjà voter en faveur de la réforme des retraites continueront de voter en faveur de la réforme des retraites. Ceux qui voulaient s'y opposer continueront de s'y opposer. Et notre amendement est toujours sur la table. Et ce sera l'enjeu du débat parlementaire. Et si cet amendement est adopté, la réforme sera votée.
La majorité présidentielle veut croire à l'adhésion de la droite.
C'est l'histoire de LR, les grandes réformes des retraites, c'est Chirac, c'est Balladur, c'est Sarkozy. Il y a beaucoup de personnes chez LR qui sont dans cette filiation historique. D'autres sont dans une filiation plus démagogique.
Cette concession sur les carrières longues devrait coûter au moins 600 millions d'euros, selon le gouvernement.
Alors Gilles Bornstein, vous avez vu la une du Parisien ce matin. À quoi joue la droite ?
Bonne question. Un jeu compliqué. On sent qu'il y a des mélanges de postures, d'ambitions présidentielles, de non-prise en compte totalement de ce qu'est l'Assemblée aujourd'hui, c'est-à-dire une majorité relative. Bon, on sent que se joue vraiment quelque chose d'existentiel pour la droite. Les uns, on a entendu Gérard Larcher ce matin, Éric Ciotti, Olivier Marleix, pensent que la droite reste un parti de gouvernement, assis sur des fondamentaux dont font partie l'équilibre des finances publiques. Et les autres pensent que tout cela, ça sert à rien parce que tous ceux qui sont sensibles à ça sont de toute façon déjà partis chez Emmanuel Macron et qu'il faut renouer avec une droite populaire qui n'est pas une droite punitive. Donc c'est effectivement Éric Ciotti ou Pierre-Henri Dumont qu'on vient d'entendre, qui eux sont tous élus de circonscriptions rurales, de circonscriptions populaires, où leurs électeurs, ceux qui votent pour eux, sont touchés par la réforme et leur disent « nous, on ne veut pas de cette réforme ». Avant, on disait l'ADN de la droite, de toute façon, les électeurs de droite ne comprendraient pas que les députés ne votent pas la réforme. C'est l'inverse. Il n'y a plus de députés républicains dans les circonscriptions bourgeoises. À Paris 16e, 17e, à Neuilly, dans les Hauts-de-Seine, où vous voulez, ce ne sont que des députés marcheurs. Peut-être à l'expression de Philippe Juvin, élu dans les Hauts-de-Seine, ils sont tous élus de circonscriptions rurales, populaires, où sur les marchés, on leur dit « j'ai pas envie de bosser 2 ans de plus, donc opposez-vous à la réforme ».
Alors voilà. Qu'Aurélien Pradier, dans le Lot, lui, il a un électorat de droite populaire.
Exactement,
qui refuse cette réforme.
Aurélien Pradier, Pierre-Henri Dumont, tous les jeunes députés, Julien Dive, Fabien Di Filippo, tous ceux qui vous disent qu'ils ne voteront pas la réforme, vous disent notre électorat maintenant, c'est la droite populaire, l'électorat de Sarkozy, l'électorat qui a une partie de l'électorat qui a porté Nicolas Sarkozy au pouvoir sous le contrôle de Stéphane. Ils ne veulent pas de ça. Donc la droite est partagée. Après, il y a évidemment des ambitions personnelles. Je pense qu'Aurélien Pradier se voit un destin national présidentiel et il pense qu'il va poser un acte de rupture, voilà, qu'il crée une sorte de petit Sarkozy de « moi je vais planter des graines pour être le nouveau héros de la droite populaire » et l'autre partie et une autre partie du parti, si je puis dire, pense que non, qu'il faut investir à terme, qu'on est comptable de ses votes et qu'à l'heure du jugement des électeurs dans 5 ans, quand le régime sera en déficit, il faut pouvoir dire « nous, on a fait ce qu'il faut, y compris avec Emmanuel Macron, on a fait ce qu'il faut pour sauver le régime ». Pardon, j'ai été long.
Non, mais c'était passionnant. Stéphane Zumsteg, alors que pense l'électorat de droite de cette réforme? Puisque apparemment les députés sont divisés, les électeurs de droite, ceux qui votent à droite.
Les électeurs sont quand même plus favorables qu'une partie, en tout cas, des frondeurs des Républicains, si vous voulez. Évidemment, parce que c'est un vote qui, traditionnellement, est plus senior, plus retraité, que ces gens-là sont, même si je disais tout à l'heure qu'ils étaient plus partagés qu'au début de la crise, ce sont quand même des gens qui sont plus favorables au principe même de la réforme des retraites. Donc, l'électorat de droite, ou ce qu'il en reste, l'électorat, c'est-à-dire les Français qui se considèrent proches des Républicains, sont plutôt favorables au projet de réforme de retraite, ce qui ne les empêche pas d'avoir une mauvaise opinion d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce qui se passe au sein de cette petite soixantaine d'élus républicains de l'Assemblée, c'est de voir quel est le profil finalement de ces trentenaires. C'est aussi le signe d'un parti qui n'est toujours pas sorti de son état de coma stationnaire ou d'un parti presque moribond, un peu comme le PS. L'analogie est très forte. On a des élus, des députés qui ont été élus parfois de façon assez surprenante, et vous le disiez Gilles, dans des circonscriptions rurales, pauvres, souvent, et qui s'affranchissent totalement de l'étiquette. Ils considèrent, ces gens-là, d'abord, ils sont jeunes, ils ont entre 30 et 40
ans. Des frondeurs, on n'avait pas l'habitude d'avoir des frondeurs chez LR. Non, c'était
un parti caporalisé,
comme on
bien
disait.
Bien sûr, tout, voyez, tout change.
Alors, qu'est-ce que ça dit, ça, s'il y a des frondeurs chez LR?
Ça veut dire que cette nouvelle génération, c'est de l'aide sociale. D'abord, ça montre la faiblesse d'Éric Ciotti, quand même, qui n'arrive pas fraîchement élu, quand même, et assez facilement. Mais qui, malgré tout, n'arrive pas à asseoir son autorité sur le groupe parlementaire, et Olivier Marleix aussi, c'est un aveu de faiblesse. Mais ça veut dire aussi que ces gens-là, qui ont 30 ans, 30 ou un peu plus de 30 ans, considèrent qu'ils ont été élus sur leur nom. Ils ont raison lors des élections législatives. Ça a été une déroute pour la droite républicaine, ça a été une déroute pour l'UDI. Mais ces gens-là ont gagné, en tout cas c'est ce qu'ils pensent, sur leur équation personnelle, beaucoup plus que sur leur étiquette partisane. Donc ces gens-là considèrent qu'ils n'ont rien, qu'ils ne doivent rien à leur parti. C'est plus facile de s'en affranchir, c'est plus facile de critiquer le président d'un parti, c'est plus facile de faire jouer sa petite musique personnelle. C'est quand même la preuve d'un parti qui va toujours très très mal.
On va continuer. Alexandra Schwarzbord, est-ce que c'est existentiel, finalement, on a l'impression que cette bataille, cette réforme des retraites, elle pourrait anéantir la droite et que quelque part la droite joue un peu son avenir, joue pourquoi pas 2027 en ce moment avec cette histoire de réforme des retraites d'Emmanuel Macron.
Ça fait un moment que la droite joue son avenir parce que ça fait plusieurs années que la pente est forte. Mais oui, on est en début, là en plus on est en début de mandat, c'est très important de sortir de cette crise renforcée. Si ceux qui sortiront de cette crise affaiblis auront beaucoup de mal à remonter la pente. Et je pense qu'Aurélien Pradié, qui est un type extrêmement ambitieux, ça se sent. Et donc c'est celui qui est arrivé troisième dans la bataille pour la présidence de LR. Ciotti est arrivé limite, a gagné in extremis, suivi par Retailleau et enfin par Aurélien Pradié, qui a fait un score que personne n'attendait, qui était pas si mauvais, parce que lui justement s'est positionné sur la droite sociale, c'est-à-dire le proche du peuple. Et donc, forcément, il capitalise là-dessus, parce qu'il a vu que ça marchait, qu'il y avait un besoin d'entendre cette voix-là à droite.
Et Laurent donc, Wauquiez, on ne l'entend pas.
Alors, Laurent Wauquiez, pour l'instant, il se tient bien.
Il y a des coups à prendre, alors il se planque.
Voilà, il se planque, il s'est pris pas mal de coups déjà, donc il se dit, il attend son heure. Moi, j'ai du mal à lui imaginer un destin important, mais bon, en politique, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Pour l'instant, il se tient bien éloigné de tout ce débat et il attend justement, je pense qu'il attend que LR s'effondre totalement et d'arriver comme le sauveur. Et voilà, donc, vous voyez, c'est très intéressant parce que dans cette bataille de retraite se joue énormément de choses, à la fois le sentiment d'abandon de la France périphérique, comme on dit maintenant, les ambitions personnelles des leaders politiques, cette majorité relative qui fait que l'Assemblée maintenant est devenue une vraie pétaudière, c'est-à-dire où tout le monde essaie de se faire entendre. Voilà, il y a tout ça qui se joue, tout ça sur fond en plus de crise économique et d'inflation et de grands groupes qui surperforment. Voilà, tout ça se mélange et ça donne un climat qui n'est pas bon.
Gilles Bornstein, et il y en a un qui est quand même sorti, on parlait de Laurent Wauquiez qui se planquait, entre guillemets, Édouard Philippe quand même, a donné une interview jeudi soir pour dire qu'il soutenait cette réforme. Comment il voit les choses et est-ce que lui, qui a tant tapis son heure pour 2027, est-ce qu'il n'a pas fait preuve de courage en disant si, cette réforme, il faut la faire?
Comment il voit les choses? J'en sais rien parce que force est de constater qu'Édouard Philippe a dit beaucoup de choses et des choses différentes sur cette réforme des retraites. Quand il était Premier ministre, on savait qu'il était dur, c'est lui qui a porté l'âge pivot, on sait qu'il voulait 67 ans. Dans sa précédente expression, dans un papier du Point, il soutenait du bout des lèvres à la réforme en disant qu'il y avait 25 trucs à faire avant. Bon, il a senti que là, dans sa prise... Édouard Philippe, ce qu'il a à gérer, c'est la distance, la bonne distance vis-à-vis du président de la République.
Parce qu'il est toujours très populaire.
Il est toujours très populaire, il baisse un peu.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que son apparence physique a à voir là-dedans? On ne sait pas, on ne le saura jamais. Il baisse un peu, il survolait les sondages, toujours sur le contrôle de Stéphane, il survolait les sondages, il les survole un peu moins. Il sent que c'est en danger. Édouard Philippe a à gérer la distance vis-à-vis du président de la République, parce qu'il sait qu'il pressent que le bilan à la fin sera compliqué et que ce n'est pas en ayant collé à Emmanuel Macron comme le fait Bruno Le Maire par exemple qu'il arrivera à lui succéder, il doit prendre un peu de distance, comme Nicolas Sarkozy l'avait fait vis-à-vis de Jacques Chirac. Et donc ça, c'est compliqué de savoir où il met la distance entre la politique du gouvernement et lui. Et bah, il oscille un peu. Et je trouve que ces derniers temps, il n'a pas trop réussi son coup, parce qu'il a paru dire les réformes, franchement, c'est pas très intéressant un jour. Et 15 jours après, il dit il ne doit pas manquer une voie au horizon. Tout le monde doit absolument voter cette réforme. Donc on voit l'embarras de chacun vis-à-vis de cette réforme. Il y a un truc qui est certain, c'est qu'il la juge nécessaire. S'il y a bien quelqu'un qui pense que l'équilibre des comptes publics, c'est important, qu'on ne peut pas s'endetter sur le dos des générations futures, ça, c'est certain que c'est dans son ADN jupéiste. Voilà. Mais après, il voit le peuple. Comme il a lui dit, lui, maintenant, il fait le tour de France, il essaye de humer l'humeur du terrain, et ben, il n'est pas plus bête qu'un autre. Il a bien dû voir que ça passe pas tellement. Ben, comme toute personne qui a un destin national, il doit hésiter entre ses convictions et la réalité du pays par lequel il espère être élu.
Vous parliez de son apparence physique. C'est lui-même, jeudi dernier, qui a pris les devants et qui a décidé d'en parler en disant « Voilà ce qui m'arrive, j'ai perdu mes sourcils et je crois qu'ils ne reviendront plus. » Ça s'appelle l'alopécie. Il y avait urgence d'ailleurs à en parler parce qu'au fond, c'est typiquement ce qui agite les journalistes et ce dont on parle et ce qui questionne les Français d'ailleurs. Qui s'interroge en le voyant.
Comme on dit, nous, souvent, c'est ce dont on parle à la machine à café. Voilà. T'as vu Édouard Philippe, franchement, il a changé de tête, etc. Et c'est vrai qu'il a changé de tête. Et c'est vrai que la politique, c'est des convictions. C'est pas que des convictions, c'est de l'incarnation. Et dans l'incarnation, il y a le physique. Et franchement, comme disent, il était BG, Édouard Philippe, il était plutôt beau gosse. Enfin, il avait vraiment un physique, une sorte de charisme physique. Et alors, à Stéphane de nous dire si ces choses-là comptent ou pas, mais à l'évidence, il y a quelque chose. Lui, il le refusait, il disait non, ça compte pas, non, ça compte pas, non, ça compte pas. Puis je pense qu'il a été obligé de constater que ça comptait et que les gens le commentaient beaucoup. Moi, nous, journalistes politiques, on nous pose des questions. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Édouard Philippe? Donc voilà, il a dit c'est pas contagieux, c'est pas grave, et c'est pas douloureux.
Voilà. Et il a dit, moi j'en souffre, j'ai 52 ans, j'ai de la chance. Un adolescent ou une adolescente frappée d'alopécie à 15 ans, c'est toute une autre histoire, hein, puisqu'on n'a plus de poils. Et plus de
dans soucis. Un destin présidentiel, ça compte.
Stéphane Zumsteig, est-ce que les... D'ailleurs, alors, comme le disait Gilles Bornstein, il est toujours très haut en termes de popularité, même s'il baisse un peu. Et est-ce que c'est typiquement le genre... Oui, le physique, ça compte. Et on sait que la maladie a frappé certains de nos présidents. Et c'est un sujet compliqué.
Alors, d'abord, pour la première question, il est toujours très haut dans l'opinion, même si Gilles le disait, ça c'est un petit peu à nuancer depuis quelques mois, mais c'est le lot classique des anciens premiers ministres. François Fillon avait été le personnage favori des Français, et surtout des Français de droite, sous le quinquennat de François Hollande. Donc, assez logiquement, il bénéficie toujours de cette aura d'avoir été un premier ministre qui a travaillé en bonne intelligence avec le président de la République, et quelqu'un, quand même, le premier aussi à avoir franchi le Rubicon, à avoir rallié Emmanuel Macron après son élection, hein, pas avant, évidemment. Donc oui, il dispose toujours d'une très bonne image auprès, on va dire en tout cas auprès des Français du centre et de la droite, et qu'aujourd'hui, il a un énorme avantage par rapport à ses principaux adversaires pour la suite, en gros Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, c'est qu'il n'est pas au gouvernement. Donc a priori, il ne serait pas entraîné dans une sorte de chute si par exemple la réforme des retraites devait se révéler être une catastrophe. Projet retiré ou alors projet adopté, mais dans la souffrance avec une opinion publique vent debout contre l'exécutif. Après, pour ce qui lui arrive là, alors vous avez raison de le dire, ce n'est pas grave, mais les Français n'aiment rien tant que les hommes ou les femmes politiques qui s'humanisent et qui parlent de leurs problèmes personnels. Il y a des présidents de la République ou des hommes et des femmes politiques qui ont vécu des choses bien plus graves, bien plus horribles dans leur famille, des décès et autres, ou des maladies. Ça a laissé des traces. Oui, ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un, des gens qui s'humanisent. Et jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'Édouard Philippe ait été un exemple de personnalité très chaleureuse. Ce n'est pas un techno à la Elisabeth Borne, mais quelque part, ça reste le fils spirituel d'Alain Juppé. Voilà. Oui, c'est celui qu'il appelait le patron. Enfin, on sent bien qu'il y a eu une filiation entre eux et que le côté peu chaleureux pouvait un jour lui être préjudiciable. Bon, il a encore quelques années pour s'humaniser, se rendre encore plus sympathique et sortir un peu aussi de cette petite coquille de dandy britannique qu'il avait joué un certain temps quand il était Premier ministre. Il va falloir être un peu plus proche du peuple à un moment donné s'il souhaite accéder à des fonctions autres que la mairie du Havre.
Alexandra Schwarzbrod.
Oui, moi je trouve que je m'éloigne trois secondes de la pure politique. Je trouve que c'est bien ce qui s'est passé là en l'espace d'une semaine. Il y a eu Édouard Philippe qui a parlé de son problème de pilosité. Il y a eu aussi ce patron d'Havas, Sadoun.
Ah oui, Arthur Sadoun.
Arthur Sadoun qui a annoncé qu'il avait eu un cancer, qu'il s'était battu, qu'il
en était sorti et qu'il fallait en parler.
Et je trouve que c'est bien, c'est important. Il y a tellement de gens qui souffrent, qui sont mis de côté parce que ils ont un cancer et on a l'impression que c'est contagieux parce que on a moins confiance en eux dans le boulot, et là tout à coup il y a deux hommes de pouvoir, si je puis dire, qui disent bah non, moi je suis atteint de tel
et
mal
je peux travailler
et c'est pas grave, et enfin c'est pas grave, c'est grave bien sûr, c'est pour ceux qui en souffrent, mais dans la société ça ne change pas mon rôle dans la société. Et donc, je ne suis pas blacklistée parce que je suis malade. Et ça, c'est important. C'est un message très important à faire passer.
Alors, depuis lundi dernier, donc, le débat sur la réforme des retraites est porté à l'Assemblée nationale, où il y a une ambiance, surtout hier, électrique, avec des députés de la NUP, vous allez le voir, à l'offensive, et où tous les coups sont permis, sujet de Guillaume Daré.
Cela n'a pas traîné au grand désespoir de la présidente de l'Assemblée nationale.
Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle ? Oui ?
Le combat débute immédiatement. Les plus bruyants et les plus offensifs à la gauche de l'hémicycle. Députée NUP et ancienne femme de ménage, Rachel Keke dénonce une réforme qu'elle juge injuste.
À tous les ministres et les députés qui sont favorables pour faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible ?
Rappel au règlement et suspension de séance, rythme un hémicycle surchauffé. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, défend la réforme et cible durement la gauche et le RN.
N'ayons pas peur de le dire, en matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui. Au blocage de l'extrême gauche, l'extrême droite répond avec le mensonge.
Un climat électrique. Marine Le Pen, elle, madame dénonce des manœuvres Kadhafi. D'intimidation. Oui, merci, trois de ses députés ont reçu ce message sur leur téléphone.
Il s'agit donc là d'une manœuvre qui vise à empêcher ou à distraire les députés du Rassemblement national de leur présence. Que des gens osent utiliser ce type de méthode, je tiens à le dire, est lamentable.
Marine Le Pen annonce vouloir porter plainte.
Gilles Borstein, c'est du jamais vu, ça. Vite, vos enfants sont à l'hôpital, il faut que vous sortiez. Pour éviter que des députés ne puissent voter, on leur invente une histoire d'enfants.
C'est pas pour voter parce qu'on peut faire voter les autres. Il se trouve que pour la motion référendaire qui était défendue par le Rassemblement national, tous les signataires de la motion doivent être là au moment où elle est discutée. C'est pour ça qu'on avait vu Yael Braun-Pivet faire l'appel de la liste qu'elle avait des signataires de la motion. Et donc, si un ou plusieurs des signataires n'avaient pas été là, la motion n'aurait même pas été discutée. Donc ça a été... Alors là, pour le coup, je suis d'accord avec Marine Le Pen, c'est absolument lamentable. C'est absolument lamentable. Je ne sais pas du tout qui a fait ça.
Alors, Jordan Bardella accuse, sans preuve, il dit « Je ne veux pas accuser l'extrême-gauche et la NUP sans preuve, mais on voit bien les techniques de zadistes de l'extrême-gauche. »
Bah, ça aussi, je trouve ça lamentable, parce qu'il dit « Je ne veux pas accuser... »
Mais il accuse.
Bah, s'il n'a pas de preuve, il se tait. C'est suffisamment grave pour comme accus. Tout est lamentable. Franchement, tout est lamentable. Je ne sais pas qui a fait ça. Vous vous rendez compte? Dire votre proche a été admis à l'hôpital, faut que vous y alliez d'urgence. Mais enfin, où on est? Où on est? C'est dingue. C'est dingue ce que cette réforme. Enfin, c'est cette majorité relative, ce fait que tout désormais est possible dans cette assemblée. C'est nouveau. C'est nouveau. Moi, j'ai connu pas tout à fait les débuts de la Ve République. Mais enfin, il y avait un parti qui, de toute façon, était pléthorique. Une majorité, une opposition. De toute façon, on pouvait faire ce qu'on voulait. À la fin, la majorité gagnait. Et puis, c'était comme ça. Maintenant, les équilibres sont tels, les écarts de voix sont tels que tout est possible. Donc, certains s'autorisent des choses réellement lamentables.
Alors, Alexandra Schwarzbrod, évidemment que c'est lamentable, là, cet épisode du faux message. Néanmoins, le fait qu'il y ait de la tension à l'Assemblée, est-ce que finalement, c'est pas ce qu'on recherchait, une Assemblée qui ressemble à la tension qu'il y a dans la société? Et finalement, Au lieu que cette tension elle s'exprime dans la rue via les gilets jaunes, elle s'exprime à l'Assemblée.
Oui, c'est ce que quelque chose de... En écoutant Gilles Bernstein, je me disais que finalement, cette époque, est-ce qu'on est si nostalgique de cette époque où il y avait
non,
une majorité
non.
qui faisait ce qu'elle voulait, il n'y avait pas de débat, et hop, on était tous derrière le chef. Je ne suis pas sûre que ça fasse vraiment envie non plus. Oui, on était tous contents qu'il y ait un peu plus de... Enfin, tous contents, oui, qu'il y ait un peu plus
elle
de...
Elle a crevé l'écran, là, la députée NUP qui...
Elle était
femme de ménage.
Bien sûr.
Chez Accor, je crois.
Voilà, absolument. Et c'est bien aussi qu'il puisse y avoir des prises de parole comme ça. Moi, je trouve que c'est drôlement bien. Simplement, il faut que ça reste tout cela dans un minimum de tenue, de courtoisie, de respect de l'autre. Et si on en arrive aux invectives, mais vraiment moches, et aux menaces, ça, c'est pas possible. Ce qui s'est passé avec les textos envoyés à ces élus RN, c'est doublement bête. D'abord, parce que ça ne se fait pas, c'est horrible. Et surtout, je pense que ça fait gagner des points à Marine Le Pen. Donc,
ça
victimise le Rassemblement National. Et forcément, ça l'a fait monter dans l'opinion. Et je pense qu'il n'y a franchement pas besoin de ça en ce moment, parce que là, Marine Le Pen, elle est en train d'engranger tranquillement, de capitaliser sur la colère des gens.
Plus que la NUP, c'est votre point de vue?
Je pense, oui. Malheureusement, je pense, parce que la NUP, depuis la rentrée, depuis septembre, elle a pris des sacrés coups dans l'aile. Donc là, il va y avoir besoin de se recrédibiliser entre les problèmes propres à LFI avec Quatennens, propres à
Europe. Hier a été sifflé copieusement.
On voit bien que c'est toujours pas réglé, cette histoire. C'est un vrai abcès au sein de LFI. Europe Écologie Les Verts, il y a eu l'épisode Bayou qui a l'air de rentrer dans... Ça a l'air de rentrer dans l'ordre. Il y a eu les déchirements à la tête du PS. La NUP, là, elle a pris des sacrés coups. Et pendant ce temps, Marine Le Pen, tranquillement, sans parler, elle capitalise. Yeah, donc c'est ça le principal danger de la crise actuelle.
Stéphane Zubteg, on disait que LR n'était plus caporalisé. En revanche, la NUP est caporalisée. Il n'y a pas une voix qui déborde. Marine Le Pen tient son parti. Que vous disent, quelle est son image dans l'opinion?
Elle joue sur du velours, dans le cadre de cette, vous le disiez à l'instant, dans le cadre de cette crise, de cette bataille parlementaire, mais au-delà de ça, de ce projet de réforme. C'est quoi l'enjeu pour le RN et pour Marine Le Pen? C'est gagner la bataille de la respectabilité et de la responsabilité. Montrer qu'on n'est plus un parti de maréchalistes, comme ça a été le cas il y a 20 ou il y a 30 ans, et qu'on est prêt, que ce parti est prêt à prendre le pouvoir. D'abord parce qu'il est composé de gens compétents à l'Assemblée, c'est le message qui est envoyé. Et on voit bien qu'il y a des prises de parole qui sont, qu'on soit d'accord ou pas avec les idées du RN, qui sont quand même de qualité. Il y a des professionnels de la politique, enfin pour eux, dans ce parti, et pas juste des histrions qui éructent à la tribune, comme on a pu le connaître à l'époque où il y avait malgré tout 35 députés en 1986. Ça s'était révélé être un désastre en termes d'image. Les choses ont radicalement changé. Elle est là pour montrer qu'elle fait de la politique, qu'elle s'oppose de façon constructive au gouvernement. Elle prend le contrepoint de la NUP, parce qu'elle est servie doublement. Elle est servie par un projet de réforme qui arrive à point nommé, et elle est servie par ce que fait la NUP, notamment la France insoumise. Elle a choisi de prendre le contre-pied. Pour l'instant, ça fonctionne dans une partie de l'opinion. Vous parliez tout à l'heure de la bataille des classes populaires. Que votent aujourd'hui les classes populaires? Elles votent très majoritairement, quand elles ne s'abstiennent pas, elles votent très majoritairement en faveur du Rassemblement national et beaucoup moins en faveur de la France insoumise, des écologistes, des communistes et des socialistes. Donc, il se passe quelque chose là. Et parallèlement, les Français, une majorité des Français ne comprend pas aujourd'hui pourquoi la gauche radicale ou la France insoumise se comporte de cette façon-là à l'Assemblée. Le pari de la LFI...
C'est-à-dire de façon
brutale en déposant quelques dizaines de milliers d'amendements, en étant effectivement assez brutale dans ses prises de parole, peu constructive quand il y a des débats. Alors, c'est un choix stratégique aussi, c'est pas forcément une erreur de la part de la France insoumise. Ça déplaît à une part des Français qui attendent de cette majorité relative, de cette absence de majorité absolue à l'Assemblée, que les partis coopèrent. La gauche fait tout l'inverse. Tous les partis font l'inverse, mais surtout la France insoumise. Malgré tout, le pari de la France insoumise, c'est de se dire peut-être que ça déplaît à une partie des Français, mais nous, les nôtres, notre socle électoral, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend de nous. Donc c'est aussi une façon de garder son précaré et de maintenir, si vous voulez, son socle électoral en espérant un jour reconquérir les milieux populaires qui sont partis ailleurs, dans l'abstention et dans le RN.
Gilles Bernstein.
Sur le Rassemblement national, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. J'ai quand même une interrogation. C'est qu'il y a quand même des chiffres. Il y a eu deux élections partielles. Le RN a perdu un député dans une circonscription de la Marne. Le RN a perdu un député qui avait été élu en juin et qui a été battu quelques mois plus tard. Et surtout, dans le Pas-de-Calais, il y avait un député socialiste invalidé qui a été réélu
triomphalement dans le, c'était dans le bassin minier, dans le Pas-de-Calais, à côté d'Hénin-Beaumont, à côté de toutes les circonscriptions tenues par le Rassemblement national, ce candidat proche de Marine Le Pen a fait 15 points de moins qu'au printemps. Donc, il y a une querelle d'interprétation. Sur le papier, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Stéphane. Je constate, alors, certes, les participations sont faibles, mais enfin, à la fin, c'est les électeurs qui décident. Et là, les électeurs n'ont pas validé ce dont on avait l'impression, c'est-à-dire qu'elle progressait. Peut-être un élément d'analyse. Marine Le Pen a fait le choix d'être hors des cortèges. Elle n'avait pas tellement le choix, parce qu'elle sait que si elle avait été élue, il se serait fait virer manu militari par les services d'ordre de la CGT, parce que vraiment, ils sont persona non grata dans les cortèges, mais ils prennent le risque, avec cette stratégie, d'être à l'Assemblée nationale, juste à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est nous, les députés les plus respectables, on laisse la rue à la gauche. Ils prennent quand même le risque de se couper de leur base sociale. Une députée me disait, moi, pendant ma campagne législative, sur les marchés, on me demandait, si je vote pour vous, est-ce que vous votez contre la réforme des retraites? Évidemment, je voterai, elle dit, évidemment. Mais c'est bizarre, c'est-à-dire de savoir à ce point que son électorat est motivé par ça et de décider à ce point de se tenir hors des cortèges, voilà, stratégiquement, il y a un risque pour le Rassemblement national de laisser la rue à la gauche et de se couper de sa base sociale.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et d'avoir décrypté avec nous ce mouvement social contre la réforme des retraites. Vous restez sur France Info. Demain, ensemble, nous parlerons de la visite de Volodymyr Zelensky en Europe, qui apparemment, avant Bruxelles, passerait par Londres, si j'ai bien compris, à confirmer, bien sûr. Bonne journée, on se retrouve demain sur France Info.